Comme indiqué là sur la diapositive, la semaine universelle de la prière, qui était du 10 au 17 janvier, avait pour thème cette parabole du fils prodigue, que l'on a déjà parlé, et Françoise aussi. Et je crois que ça fait le troisième dimanche maintenant que vous avez suivi un petit peu ce texte qu'on trouve dans l'évangile de Luc concernant ce qu'on appelle souvent le fils prodigue ou le fils perdu. Et aujourd'hui, on arrive à la fin de cette série de réflexions sur cette parabole. Et aujourd'hui, on va lire le texte de nouveau. Le texte qui nous concerne plus particulièrement ce matin, c'est les versets 20 à 24. C'est la partie pour aujourd'hui. Mais je pense que ça serait intéressant juste de reprendre, si vous n'étiez pas là pour les autres, juste de reprendre la lecture de toute la parabole, y compris cette petite introduction qu'on retrouve dans les versets 1 et 2 du chapitre 15. Luc chapitre 15, versets 1 et verset 2. Alors, je lis. Tous les collecteurs d'impôts et pécheurs s'approchèrent de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens, sorte de groupement religieux de l'époque, mais les pharisiens, pardon, et les spécialistes de la loi religieuse, les spécialistes de la loi murmuraient disant, cet homme accueille des pécheurs et il mange avec eux. Et en réponse à cette remarque, Jésus, il va donner trois paraboles, trois histoires différentes. Donc on a cette première histoire qui raconte, on parle de la brebis perdue, plutôt le berger qui a perdu une brebis. La deuxième histoire qu'il raconte, c'est à partir du verset 8, Jésus parle de cette dame qui a perdu une pièce de monnaie. Et puis cette troisième histoire qu'il va raconter, c'est celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est cet homme qui a perdu son fils. Et là, on va reprendre la lecture à partir du verset 11 pour avoir le début de l'histoire. Le verset 11. Jésus y continue et il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Leur père partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune et vivait dans les débauches. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs pour garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Et lorsque il revint et approcha de la maison, il entendit la musique, les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le suppliait d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Une histoire émouvante. Une histoire extraordinaire que Jésus avait à donner à ses disciples. Est-ce que François Hollande est un bon président? Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de politique. Hein. Votre appréciation du président Hollande sera dictée forcément par votre conception de ce qu'est un bon président. Votre attitude envers lui vous conduira vers un engagement ou un désengagement, des éloges ou des critiques. Mais ça sera basé sur votre conception de ce qu'est un bon président. Et c'est un peu ça la clé de cette histoire-là, la réponse. Vous voyez, Jésus, il était en train de manger avec des gens que les chefs religieux qualifiaient comme des gens de mauvaise vie. Jésus mangeait avec ces gens-là. Et alors, les chefs religieux de l'époque, ils disaient, mais cet homme ne peut pas être l'envoyé de Dieu. Parce qu'il mange avec de telles personnes. Ils avaient une conception de Dieu qui était fausse. Et c'est pour ça que Jésus leur a donné cette parabole, ces trois paraboles, pour le montrer comment il est Dieu. Comment il est vraiment Dieu? Quelle est votre conception de Dieu? Certains vont dire, ben, si Dieu est bon, pourquoi toute cette souffrance? Si Dieu est bon, pourquoi je ne trouve pas de travail? Si Dieu est vraiment là, s'il existe, s'il est bon, pourquoi mon enfant est dans cet état? Ou pourquoi mon enfant n'est plus là? Quelle est votre conception de Dieu ce matin? Nous qui sommes chrétiens, Comment est votre Dieu? Comment il est? Lorsque vous vous éloignez de lui, je parie que vous êtes comme moi, que pendant cette semaine, vous avez commis des péchés. Comment il est votre Dieu face à cela? Jésus essaie de répondre donc à ces questions par ces trois paraboles. Ces trois paraboles, j'oublie les images, excusez-moi. Ces trois paraboles, et dans cette parabole, cette partie de la parabole que nous allons regarder aujourd'hui, il y a trois étapes qui vont nous aider à mieux comprendre ce Dieu. Ces versets 20 à 24 qui sont le texte d'aujourd'hui. Dans le premier verset 20, nous trouvons une rencontre. Dans le verset 21, nous trouvons une réconciliation. Et dans la troisième étape, nous trouvons dans les versets 22 à 24 une réjouissance. Mais regardons d'abord cette première étape, la rencontre. Déjà, dans cette parabole, les semaines précédentes, vous avez regardé la première partie de cette parabole, et déjà dans cette première partie, l'attitude du Père avait choqué énormément le peuple, les gens qui écoutaient Jésus à cette époque-là. L'attitude du Père avait choqué parce que, au lieu de battre son fils, ou de le renier, pour une telle insoumission, une telle insolence, telle révolte, il lui a donné son héritage. Il lui a donné son héritage. Et c'est comme si le fils disait, mais pour moi tu es comme mort, donne-moi tout de suite là ce qui me revient. Face à une telle attitude, ça choquait les gens de l'époque que le Père accède à cette demande. Mais là encore, on voit l'attitude du Père qui est choquant pour ce peuple-là. Pour ces gens qui vivaient à cette époque-là, dans cette culture, une culture d'honneur, une culture de honneur et de honte, ça va de pair. L'attitude du Père dérange. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le Père était en train de guetter. On lit dans le verset 20, « Alors qu'il était encore loin, son Père le vit. » Il était loin et le Père le voyait. Le Père l'attendait, le Père le guettait. Guettait quelqu'un qui voulait ta mort. Et ensuite, il fut ému de compassion. Le texte, les mots dans le texte grec d'origine sont très forts, là. Il est remué dans ses tripes, ou même, une certaine traduction dire, il est déchiré dans ses tripes, tellement il est ému quand il voit son fils au loin. Et cela le pousse à courir vers son fils. Maintenant, on sait que c'est un homme avec pas mal de serviteurs, un homme avec pas mal de moyens. C'était un homme distingué. Et courir, bon, peut-être courir, c'est pas forcément quelque chose d'honteux, mais quand on court de manière rapide, à cette époque-là, avec les robes blancs, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait soulever pour empêcher que on trébuche dans les robes. Ah, il a dû soulever ses robes pour courir. Et c'est ça qui était honteux, les gens voyaient ses jambes. Tel homme, telle dignité, telle indignité. C'était honteux, sa réaction. Il courait vers son fils. Pourquoi court-il? Est-ce que c'est la joie? La joie de voir son fils de nouveau. Ou comme d'autres l'ont suggéré peut-être, est-ce que c'était parce que il voulait arriver à son fils avant que les autres y arrivent? Parce que si c'était les villageois qui arrivaient avant lui, qu'est-ce qu'ils auraient fait, les villageois? Un homme qui a provoqué tant de honte, pas simplement pour la famille, mais pour tout le village. Ou avant que l'autre frère, le frère aîné, arrive, qu'est-ce qu'il aurait fait, lui? On voit un petit peu son attitude vers la fin de l'histoire. Est-ce que le père a couru pour être là en premier? En tout cas, il tombe sur son cou. Mais attendez, ce jeune, il vient d'où là? Il s'occupait des porcs. Il était sale. Il puait. Et vous connaissez, pour les Juifs, le porc, c'est interdit. Peu importe le père, embrasse son fils avec toute sa saleté, toutes ses mauvaises odeurs. Il embrasse, il accueille. Il prend ainsi sur lui-même la honte de ce garçon. Il prend sur lui-même aussi la saleté, il n'a pas honte de s'associer avec la saleté, la honte de ce jeune homme. Voilà notre Père aussi. Lorsque Jésus est venu, Dieu dans la forme du Fils est venu vers nous, à notre rencontre. Il est venu vers nous. Il s'est abaissé, il s'est humilié. C'était honteux pour le Dieu créateur de tout l'univers de s'abaisser jusqu'à devenir un petit enfant dans une crèche. Encore vivre sur cette terre sans moyen du tout, sans rien du tout. Il n'avait nulle part, nous dit le texte, où reposer sa tête. Nulle part pour appeler chez lui. Et puis encore, il s'est abaissé encore plus. Il a pris un peu plus de honte sur lui lorsqu'il était là. Il s'est laissé arrêter par les chefs religieux, faussement accusés. Lorsque les hommes ont craché sur son visage, il a dit rien. Lorsqu'ils ont enfoncé une couronne d'épines sur sa tête pour se moquer de lui, il ne dit rien. L'humilité, la honte qu'il a pris sur lui-même. Et comme si ce n'était pas assez, il s'est laissé condamner. Il aurait pu appeler toute une légion d'anges pour venir le libérer, il n'est pas fait. Et il a accepté cette honte d'aller sur le mont Golgotha et se laisser clouer sur une croix. Quelle honte pour le Dieu créateur. Quelle honte. Il a embrassé pleinement notre saleté, notre humanité. Voilà notre Père. Une rencontre. Le Père a couru vers le Fils, se jeté sur son cou. Le Père a couru vers nous. Dans la personne du Fils Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et il ne faut pas qu'on s'arrête là. Parce que l'étape clé n'a pas encore été franchie. Le Père est venu vers nous. Mais dans le verset 21, nous voyons cette deuxième étape qui est essentielle. Vous avez vu dans le texte précédent comment le Fils est rentré sur lui-même, a commencé à réfléchir à tout ce qui se passait chez son Père. Il dit finalement, je serai mieux. Ça sera mieux que je rentre chez mon Père. Il a préparé tout un speech qu'on retrouve dans le verset 17-18. Il dit, je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il avait préparé son petit speech. Et là maintenant qu'il est dans les bras de son Père, il commence à lui dire ce petit speech qu'il avait préparé. Et il dit, verset 21, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce fils y passe par une étape de repentance profonde. Et dans cette rencontre avec Dieu, c'est une étape essentielle. La repentance. Reconnaître ce que nous sommes devant lui. Reconnaître notre état de culpabilité devant lui. Reconnaître qu'on est fautif, qu'on mérite la condamnation, qu'on n'est plus digne d'être appelé son fils. Humblement venir lui demander pardon. La repentance profonde, il n'y a pas de réconciliation sans repentance. Pas de réconciliation sans repentance. C'est vrai, Dieu a fait le premier pas vers nous. Il est venu à notre rencontre, il nous a entourés de ses bras, mais la vraie réconciliation ne peut pas se faire s'il n'y a pas cette repentance. Et donc, le fils veut poursuivre son speech, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à terminer. Parce que le père l'interrompt. Une fois que le père a entendu cette repentance, cette demande de pardon, pour ainsi dire, une fois que le père a compris que son enfant était vraiment repentant, il sautait de joie. Le fils voulait dire dans la suite, si on reprend son histoire, son petit speech là qu'il avait préparé, il voulait dire, mais traite-moi comme l'un de tes ouvriers, mais il n'a pas eu le temps de le dire. Le père n'a pas voulu qu'il le dise. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait le père? C'est l'étape suivante, la réjouissance. Tout de suite, verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement, mettez-lui. Passez un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » La joie, la fête. Tout ce que le père fait, de nouveau, pour les auditeurs de l'époque, était scandaleux. Comment un père aussi digne pourrait agir de la manière, après tout ce qu'il a fait son fils? L'accueillir, c'est déjà pas bien, mais faire la fête comme ça, si extravagante, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Tout ce que le père, le, pardon, tout ce que fait le Père est scandaleux, inattendu dans l'histoire. La robe, le plus beau vêtement réservé pour les hôtes, les invités d'honneur, c'est pour le Fils. L'anneau ou la bague qui symbolisait l'autorité dans la maison, c'est pour le Fils. Les sandales, ben c'est les serviteurs, les esclaves qui ne portaient pas de sandales. C'est une marque de quelqu'un qui appartenait à la maison. Le veau gras, cet animal qui était réservé pour cette occasion particulière, où il voulait faire vraiment la plus belle fête qui soit. C'est pour le Fils. Celui qui a dépensé tout son héritage avec les prostituées. C'est pour lui tout ça. L'extravagance imméritée. Et c'est pour cela que nous devons appeler cette parabole la parabole du père prodigue et pas du fils prodigue. Prodigue, ça veut dire quoi? Tout simplement, le dictionnaire dit que le prodigue, ça veut dire qui dépense à l'excès. C'est vrai, le fils a dépensé à l'excès toute la fortune qu'il avait. Mais le père a surpassé de loin le fils. De façon inconsidérée, il dépense à l'excès pour son fils. Notre Dieu, notre Père, un amour scandaleux pour nous. Un amour scandaleux pour nous, aux yeux des gens du monde. C'est pas normal. C'est pas mérité. Le Père nous dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Le Père te guette, t'attend. Et lorsque tu viens, il est prêt à déverser tant de bénédictions sur vous. On a entendu tout à l'heure un petit peu la reconnaissance des uns des autres. C'est extraordinaire. Toutes les bénédictions que le Père a déversées sur nous, sans que nous méritions quoi que ce soit de sa part. Qu'est-ce que nous méritons? Dieu ne doit rien. Dieu ne doit rien. Et pourtant, il multiplie ses bénédictions envers nous, chaque jour. Des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles, des bénédictions morales, des bénédictions relationnelles. Et ce qui est extraordinaire dans tout cela, pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait? Parce qu'il trouve son plaisir dans cette relation d'intimité avec toi. Il trouve son plaisir dans une relation avec chacun de nous. Il désire tant nous avoir auprès de lui. Il nous a créés pour avoir une relation avec lui. C'est notre péché, notre révolte, notre désir d'indépendance qui nous a éloignés de lui. Il ne nous a pas créés pour cela, il nous a créés pour avoir une relation avec lui, une intimité avec lui. Et dès lors qu'il voit que nous revenons vers lui avec une attitude de repentance, d'humilité, pour lui demander pardon, il est prêt à être réconcilié avec nous et faire la fête. Parce que c'est ça qu'il désire pour chacun de nous. Nous sommes... Vous êtes, tu es, son plaisir. Est-ce que lui il est ton plaisir. Voilà le défi. Voilà le défi. Réjouissez-vous en lui autant qu'il le fait en vous. Chers amis, nous avons un Dieu prodigue, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui mérite de notre part une réponse prodigue, une réponse extraordinaire, une réponse extravagante. Quelle est votre appréciation du Père prodigue ? On revient à la question au départ. Notre conception de Dieu dépend de notre, ou notre appréciation de Dieu, pardon, dépend de notre conception de comment il est. Quelle est votre conception de Dieu ? Jésus nous a donné cette parabole-là pour que nous comprenions un peu plus. Comment il est, Dieu. Et il attend maintenant que nous répondions en conséquence. Il attend maintenant que nous répondions en conséquence. Parce que dans la suite de cette histoire, on a lu jusqu'à la fin, on ne va pas l'étudier, mais il y avait le deuxième fils. Il y avait le deuxième fils dans cette histoire-là. Le fils aîné, là, qui était offusqué du fait que le père fasse une telle fête extravagante pour le fils qui avait tout dépensé. Il ne voulait pas rentrer. Lui, il ne voulait pas rentrer dans la fête. Il restait à l'extérieur. Et alors, nous voyons le père qui est obligé de sortir. Et là encore, dans la culture de l'époque, c'était complètement inadmissible que le père accède au caprice de son fils. C'est pas un père, ça. Et pourtant, il sort à la rencontre de ce fils aîné. Et il supplie ce fils aîné d'entrer. L'histoire s'arrête là. Qu'est-ce qu'il a fait, ce fils aîné ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que vous allez faire ce matin ? Jésus a donné cette parabole, cette histoire, comme une invitation. Et nous voulons laisser ça comme une invitation ce matin. Quelle est notre réponse à un Dieu prodigue, un Dieu si extraordinaire ? On a les deux exemples, on a le fils qui s'est humilié, qui est venu humblement. Ou on a le fils aîné, là, qui reste à la fin. Et on ne sait pas trop quelle est la réponse. Et Jésus est là, il est en train d'attendre la réponse. Que vous soyez sur le chemin d'une rencontre avec Dieu, et que vous soyez déjà chrétien depuis longue date. Il y a des moments dans notre vie où on s'éloigne de Dieu. Chaque péché, chaque petite faute nous éloigne de lui. Et que faisons-nous avec cela? Il est toujours là, toujours le même Dieu. Il attend toujours la même réponse. Quelle sera votre réponse ce matin ? Que le Seigneur vous bénisse.